Vu que demain, ça fait du Christophe, hein. Et donc, c'est sans doute la dernière semaine avant. Ça ne nous empêcherait pas de continuer à méditer sur la sensualité, puisque l'amour, l'incarnation de l'amour, ça se vit jusqu'au terme. Et c'est toujours par la cause finale, hein, vous savez bien, hein, c'est toujours par la cause finale qu'on comprend quelque chose. C'est pas par le passé, c'est toujours par la cause finale qu'on comprend quelque chose parfaitement. Pourquoi? Parce que la perfection dans l'art spirituel et métaphysique relève de l'énergéa. L'énergéa, c'est la cause finale dans l'art spirituel et métaphysique. Alors c'est pour ça que dès qu'il s'agit de Dieu ou de l'image de Dieu qui est en nous, c'est toujours par là. Si tu veux comprendre qui tu es, pourquoi il t'arrive telle et telle chose, regarde la fin. Regarde la fin. Tu seras glorifié. C'est ta gloire. Que tu viens sur le monde, c'est ta gloire. Tu es en poche, un germe de gloire. Et ça se comprend comme ça. Et au ciel, on sera parfait. On sera pleinement actué. On sera tout à fait le miroir de Dieu. Hein. C'est sûr. Pour ça, c'est bien d'ailleurs. Oui. On est en train de parler de mariage, sponsalité, homme, femme, masculin, féminin. L'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre là sur l'interrogation des Sadducéens. Les Sadducéens, vous savez, croyaient à la réincarnation, donc ils pensaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Donc, vous avez la réponse magistrale de Jésus, il dit la réincarnation, c'est pas pour nous. La réincarnation, ça n'existe pas. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu des vivants. Et Abraham, c'est pas réincarné. Isaac, c'est pas réincarné. Et Jacob, c'est pas réincarné. Il n'y a pas de réincarnation. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de réincarnation. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. L'homme est créé une fois. Puis il meurt, puis il y a un jugement. Épître aux Éphésiens. Chapitre 5, je crois. Donc il n'y a pas de réincarnation. Donc le corps que Dieu nous a fait, le corps dans lequel nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu, est pour non seulement toujours, non seulement pour toute la vie, mais aussi pour l'immortalité et enfin pour l'éternité. Et c'est le même corps, pour la vie présente, pour l'immortalité et pour l'éternité. Et il se trouve que notre corps est masculin ou féminin. Alors, il dit, et les Sadducéens, ils essaient de coincer Jésus en disant, attendez, vous voyez bien qu'on peut très bien épouser, même on pourrait le dire pour, dans la loi chrétienne, on dit voilà, si ton mari meurt, tu peux te marier, tu es veuve, tu peux te marier une seconde fois, sacramentellement. Alors au ciel, c'est qui sera ta femme la première? C'est qui ta épouse? Et Jésus, il a cette réponse quand même. Hein. Mais les enfants du royaume de Dieu sont comme les anges dans le ciel. Ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Au ciel, on ne se marie pas. Il n'y a pas de messe sponsale au ciel. Pourquoi? Parce que la messe sponsale, c'est le renouvellement d'un sacrement. Et le sacrement de mariage, le sacrement de mariage est un sacrement qui est pour la terre, pour la vie présente, pas pour la vie immortelle et pas pour la vie éternelle. Et donc c'est un sacrement. Il est un sacrement. Et tous les sacrements sont sur la terre pour aider à atteindre la perfection. Le sacrement va permettre à notre corps d'amour, de lumière et d'amour, d'aller jusqu'à la perfection de ses capacités d'aimer spirituellement, d'aimer surnaturellement, d'aimer divinement et d'aimer glorieusement. Et une fois qu'on est dans cet amour plénier, il n'y a plus de mariage. Pourquoi il n'y a plus ça comment pourquoi on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Il n'y a plus de perfection à atteindre. La perfection supplémentaire, on est en acte. Oui. C'est ce que ça intéresse, ils iront voir dans saint Thomas d'Aquin. Toujours, bien sûr, saint Thomas d'Aquin, pour voir ce qui se passe dans les corps glorieux quand nos corps ressuscitent. Quand nos corps ressuscitent, ils sont agiles, ils sont subtils, ils sont lumineux, ils sont impassibles. Mais ils sont aussi entièrement rassasiés. Ils sont complets. Ils sont comblés de gloire. Ils sont pleinement eux-mêmes. Ils sont au comble de la vie corporelle. Parce que le comble du corps, c'est la gloire. Du corps, c'est la gloire de la résurrection. C'est qu'il est pleinement image, ressemblance de Dieu, glorieusement. Et par exemple, saint Thomas d'Aquin va dire, mais alors qu'est-ce qui se passe pour notre regard, nos yeux? Qu'est-ce qui se passe pour notre oui? Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est bien notre corps qui ressuscite tel qu'il est, n'est-ce pas? Alors le foie, le pancréas, la vessie, on en a besoin. On a besoin de ces organes pour se nourrir. Et les organes, masculins et féminins, qu'est-ce qu'ils deviennent? À quoi servent-ils? Donc ça voudrait dire qu'ils servent à la gloire. Hein. Et si, saint Thomas explique, bien sûr que si. Prenez par exemple le foie, l'assimilation, le goût, comme c'est agréable de manger. Agréable de voir la belle couleur de cette nourriture. Comment c'est agréable de voir crépiter les frites. Ou, vous savez, les noisettes au chocolat, quand elles cassent sous les dents, c'est délicieux. Le bruit lui-même, c'est un délice. Tout ça, c'est délicieux, c'est merveilleux. Et la manière dont ça passe dans vos entrailles. Quelquefois extraordinaire. Bon, ben, au ciel, le corps sera pleinement accompli dans ce rassasiement, dans cette fruition, dans cette jouissance. Une fois que vous êtes entièrement, que vous n'avez pas envie de reprendre, de vous gaver, profitez du sommet de la jouissance, du chocolat, et vous n'allez pas prendre du vinaigre par-dessus. Vous c'est complètement idiot. Donc au ciel, si vous voulez, le seul fait de voir la nourriture céleste, c'est Dieu qui est la nourriture céleste. La gloire physique de la résurrection sera notre nourriture. Et elle nous rassasiera, elle crépitera, un saveur, un écoulement. L'estomac sera pleinement lui-même. Pleinement lui-même. L'ivresse, pleinement lui-même. Toutes les capacités d'ivresse, de rassasiement. Et pareil, vous voyez, donc pas besoin d'en rajouter. Inutile. Pas besoin d'en rajouter. On sera parfaitement repu, mais plus que repu, parfaitement. Oh, parfaitement. Parce que Dieu a dit, ah bon, ils se sont privés de nourriture pour moi. Ah, ils sont privés de. Par amour pour moi, à moi de me donner, sans mesure, comme un rassasiement. Quand c'est Dieu qui se donne un rassasiement sous forme de gloire physique, il faut dire là, n'ayez pas peur, vous n'allez pas dire qu'est-ce que je vais avoir pour le repas prochain. C'est pas ça tellement la question que vous vous posez. Et pareil pour toutes les autres dispositions de la vie corporelle, et en particulier, bien entendu, pour l'homme et pour la femme. Et bien évident que la sponsalité, la nudité, la mise à nu par la gloire de notre féminité masculine est tellement mise à nu qu'elle expire dans le rassasiement. Dans le rassasiement de toutes les fonctions organiques masculines et féminines qui disparaissent dans cette espèce d'ébullition extraordinaire de la gloire, de la victoire de l'amour sur la différenciation sexuelle. Et du coup, tous les organismes, vous voyez, de l'éros, de la philia, de l'amour, du sentiment, de l'affectivité, sont complètement hors d'eux-mêmes. Dans l'autre, la résurrection. Dans la résurrection. C'est extraordinaire que le Christ s'est englouti dans la résurrection du Verbe. Que Marie s'est engloutie dans la gloire du Père. À travers Jésus ressuscité, c'est extraordinaire ça. Et du coup, c'est autant le masculin que le féminin qui, l'un dans l'autre, disparaissent dans leur rassasiement mutuel, au-delà de tout. Donc on est comme les anges de Dieu, on est au-delà de l'unité sponsale. On est dans l'unité sponsale parfaite, accomplie et au-delà. C'est pas très compliqué, hein. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas à te poser la question de savoir si tu seras marié avec Iphigénie, Dorothée ou Pénélope. C'est sûr. On est marié avec Dieu. Et c'est ce que dit Jésus aux Sadducéens. On vit pour Dieu. Et si on passe par des actes, si on prend nos mains pour que notre soif de ferveur et d'amour passe par les pieds, nous fait courir vers l'amour. Si on passe par nos mains, c'est-à-dire si on passe dans cette conjonction sponsale sur la terre, c'est pour atteindre cette perfection de l'énergie, vous voyez, de l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là notre fruition, notre passivité substantielle du corps masculin et féminin s'extasie tellement qu'il sort de lui-même dans le rassasiement de l'autre, et de l'autre qui est Dieu dans la résurrection, bien sûr. Vous voyez, et du coup, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà pourquoi Jésus dit au ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Il veut dire par là, il n'y a plus, il a dû le dire en hébreu, hein. Parce que ni homme ni femme, il y a un problème, si, il y a des hommes et des femmes, mais il n'y a plus ni masculin ni féminin. Masculin, c'est une puissance. Il n'y a plus de puissance, c'est un acte. Si vous êtes en puissance à une perfection, c'est que vous n'êtes pas dans l'acte de la perfection, n'est-ce pas? Mais au ciel, on est dans l'acte de la perfection, on n'est pas en puissance à une perfection future. On est en acte de perfection. Donc, il n'y a ni homme ni femme. Du point de vue de l'amour, la victoire de l'amour surtout, c'est l'Esprit Saint qui exprime la victoire de l'amour surtout de manière personnelle en Dieu. Et pour nous, c'est l'au-delà du masculin et du féminin dans l'unité sponsale glorifiée qui est la manifestation de cette perfection de notre différenciation sexuelle dans l'acte de la gloire de Dieu. Bon, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. Si, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà pour l'évangile d'aujourd'hui de Saint-Luc sur les Sadducéens. Quelque part, oui, il y a une réincarnation, je veux bien. Il y a une réincarnation dans l'au-delà de mon corps, dans la gloire de la résurrection, qui est dans ce corps glorieux de l'unité sponsale, j'allais dire du corps spirituel de toutes les unités sponsales conglomérées, si je puis dire, dans le Christ, dans la Jérusalem céleste. Alors ce sera plus notre corps que notre corps masculin et féminin, c'est sûr. C'est pour ça que nous sommes déjà, nous, dans l'exercice de l'amour masculin et féminin, plus porté à contempler la perfection de ce que nous vivons dans l'amour mutuel, justement, dans ce troisième, oui, cette incarnation future de la couleur verte, je sais pas, de l'unité sportive, toute glorifiée. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la signification de l'unité de l'amour entre l'homme et la femme, il faut être extraordinairement attentif et assimiler et se laisser illuminer par la couleur de ce troisième qui vient du mélange et de la disparition des deux, dans l'unité des deux, pour faire émaner une lumière nouvelle du monde physique, de notre humanité commune. Tout ça, on l'a déjà vu, hein. Donc, fin du résumé. Quoique, nous avons dit quand même la dernière fois, on a essayé de regarder ce que c'était la nudité. Et on avait regardé le livre de Tobie, avec l'ange Raphaël, pour vivre de la nudité, pour vivre d'un... Pour vivre de la nudité, il faut évidemment être revêtu du sacrement. Être revêtu du sacrement. Et c'est une des significations les plus fortes, vous savez. Vous voyez, dans la Bible de la Genèse, on trouve ceci, que je trouve très amusant, qui a beaucoup les gens sont beaucoup interrogés. Pourquoi est-ce qu'après le péché originel, bon Dieu se promène dans le jardin et dit: ah bon, tu as honte d'être nu? Bon, d'accord, c'est pas grave. Et c'est Dieu lui-même qui fabrique un vêtement avec des feuilles de figuier pour cacher la signification inversée et extérieure de la nudité sponsale. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Bon, si vous ne vous rappelez pas, on pourra vous acheter le livre de la Genèse, c'est pas grave. Donc c'est Dieu qui fabrique un vêtement. C'est incroyable. Et avec des feuilles de figuier. Hein, je crois que c'est ça. C'est pas des feuilles de prunier quand même. C'est des feuilles de figuier. C'est pas des feuilles de pommier en tout cas, ça c'est sûr. Pas des feuilles de pommier. Pas des feuilles d'arbre fruitier, non, non. Oui, pourtant le figuier est un arbre fruitier. Bon. Alors. Le figuier, c'est extraordinaire, c'est Dieu qui fabrique ça. C'est Dieu qui te coud un vêtement, qui te le donne. Donc il y a, après le péché originel, la nudité extérieure, lorsqu'on est en présence de Dieu, n'existe plus. On est revêtu d'un revêtement de feuilles de figuier. Ah, alors que c'est extraordinaire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Mais ça veut dire que. Ça veut dire que au ciel, eh ben, c'est pas comme nudiste glorieux. On n'est plus jamais nu. Dans une vision extérieure de la nudité. Oui. On ne voit plus jamais la nudité extérieure. Et Dieu ne. C'était possible pour le jardin du paradis originel dans la grâce d'origine. Pourquoi? Parce que l'innocence divine d'origine était plénière. Et donc il n'y avait aucun hiatus, aucune différence entre la nudité intérieure et la nudité extérieure. Donc la nudité extérieure ne se voyait pas. Parce qu'on ne voyait que la nudité intérieure. Mais à partir du moment où il y avait petite blessure, cette séquelle, cette concupiscence, cet orgueil, cette vanité, ce regard sur le secondaire, cette espèce de mise en dehors de la vision de Dieu et donc de ma propre vision, de ma propre innocence jusque sur le plan du corps, bah, du coup, bon, je suis complètement déséquilibré et Freud peut arriver avec ses pantalons-là. N'est-ce pas ? C'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Et c'est pas bien du tout. Alors, donc Dieu fait des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, vous savez, dans les targoums, le figuier, ça veut dire quelque chose dans la tradition des Juifs, d'Israël. Le figuier, c'est l'endroit où s'assied le Hokmei Atalmud, c'est-à-dire le docteur de la magie d'Israël, s'assied là. Il prie, il se met en présence du Messie d'Israël. comme Abraham, comme Isaïe, qui a vu Israël, comme Nathanaël. Et c'est Jésus qui dit, je t'ai vu au pied du figuier. Et puis c'est dit de manière telle que tu m'as vu quand tu étais au pied du figuier. Et quand on est au bord du figuier, vous voyez, prenez par exemple Hillel, ou Yonadab ben Zakkai, ou autre, enfin c'est en fait surtout Siméon, bien sûr, le Nachi d'Israël, dans toute sa splendeur. C'est Nachi d'Israël, c'est Hokmaya Talmud, c'est docteur de la loi, et c'est des docteurs mystiques, c'est des docteurs divins, c'est des docteurs surnaturellement habités par la présence intime, par communion avec le Messie d'Israël. Regardez Moïse. Vous croyez qu'il s'est trouvé dans le buisson ardent, puis il est resté extérieur au buisson ardent. Vous pensez quoi? Bien sûr que non. Moïse, il est assis, il est immaculé de conception. Il faisait surgir le Verbe de Dieu. On l'a fécondité du buisson ardent. C'est intérieur, et quelque part, c'est pour ça que Moïse resplendissait. Et quand vous étiez au bord du figuier, le rabbi, à un moment donné, resplendit de la lumière du Messie. Et il voit le Messie. Le Messie se manifeste à lui, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Et ça s'appelle, c'est une expression, ça en hébreu, qui dit être sous le figuier. De toute façon, c'est parce que le Nachi d'Israël, il vit tellement du Messie, tellement du Christ avant qu'il ne vienne, on est d'accord. Il vit tellement de lui, il le contemple de manière tellement intime, tellement forte, avec la grâce du Saint-Esprit, ça qui fait surgir en lui quelque chose de très fort, que du coup, il est en train de l'expliquer aux disciples, à ceux qui l'enseignent, mais il ne peut pas communiquer quelque chose qu'il n'est pas en train de vivre. Alors, un communicateur de la doctrine de la Torah, de la doctrine de Moïse, doit vivre, et il communique le trop-plein de sa contemplation actuelle. Sinon, c'est pas la peine. C'est devenu un sadducéen. Un type, la figuière, c'est de chamar. C'est pas hélléliste, vous voyez. Bon. C'est les deux écoles, hein, les sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens sont doux, mystiques, spirituels, messianiques. Alors, c'est pour ça qu'ils croient à la résurrection. Les sadducéens, ils sont tellement barrés. Des trucs dans des casques, finalement, ils ont tellement découpé qu'ils sont devenus presque bouddhistes. Puisqu'ils croient à la réincarnation. C'est vraiment qu'ils sont tombés très bas, finalement. L'air de rien. Sans amour, on finit par tomber dans le découpage. Dans la division. Alors, donc le figuier, c'est le symbole. Voilà ce dont le figuier est le symbole. Et Dieu cache la signification extérieur de la masculinité et de la féminité par des feuilles de figuier. C'est extraordinaire, ça. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, évidemment. Tous les juifs savent ce que ça veut dire. Les goïms, c'est autre chose. Et comme ici, nous sommes tous juifs. Il n'y a pas un seul goïm. Ça va. Alors, c'est extraordinaire. Tous juifs, c'est vrai. Jésus, on est tous juifs, on a le sang de Jésus dans les veines, vous comprenez, bien plus qu'un juif, qui lui est pire qu'un goïm quelquefois, donc, du point de vue du sang, je veux dire, pas du point de vue de l'origine, ni de la dignité, ni de son acte, c'est-à-dire sa perfection finale, ça c'est autre chose. Alors, les arbitres de figuier, et la nudité, c'est pas beau ça. C'est que voilà, désormais, je ne vivrai de la nudité qu'à travers le voile contemplatif de la présence intérieure et extérieure de Jésus, Messie d'Israël. Onction de son corps mystique tout entier, dans la communication, dans la lumière. Désormais, je ne vivrai plus jamais de la nudité à l'état pur. Mais comme c'est beau, vous voyez, le livre de Tobie, d'abord, ils sont tout nus dans le lit. Mais il y a papa et maman, regardez, ils sont bien tout nus dans le lit, n'est-ce pas? D'abord, tout nus dans le lit, après on se retire. Et une fois qu'ils sont tous nus dans le lit, vite, la guérison. L'archange Raphaël dit à Topi, une fois que papa et maman sont partis, vous voyez, l'innocence originelle, c'est ça. C'est papa et maman, c'est l'origine de l'innocence originelle, de la conception. Très bien, c'est dès l'origine que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc tout nu dans le cul. Une fois que papa et maman sont partis, ah, les péchés originels, guérison, vite, debout. On prie, immédiatement, debout, on prie, levons-nous ma soeur. Et prions, et ils prient ensemble, et il y a l'odeur du poisson, et il y a l'encens, et il y a l'odeur du foie qui grille sur le charbon d'encens, etc. Et la liturgie commence, la liturgie sacramentelle. La liturgie du sacrement commence, et on est revêtu, il n'y a pas de nudité possible sans le revêtement du sacrement. Il faut voir le sacrement plus que notre nudité. Enfin, ça a l'air... Hein ? On va lire ça à la télévision française. Voilà. Clara Morgan, par exemple. Charmante, mais elle s'est trompée. Oui. C'est sûr. Et non, ça, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est... On est revêtu de ça. C'est ce que nous avons vu, effectivement. À ce moment-là, ces sacrements sont là. Il ne faut jamais oublier que dans le mariage, il n'y a pas de nudité. Entre nous, il y a un vêtement. Et ce vêtement, c'est les feuilles de figuier du Christ. Ressuscité d'entre les morts, nous le donne sous forme de sacrement. Entre nous, de sa nudité à la mienne, il y a un sacrement entre les deux. Donc, il n'y a pas seulement d'un côté l'unité sponsale, mais il y a aussi en plus un sacrement qui voile notre honteuse nudité et qui vient, j'allais dire, la transpercer, la transfigurer, la surnaturaliser, la diviniser, la réparer, l'indulgencier, l'intérioriser. Jésus est là. Je veux dire, le Messie est là, oui. Le sacrement, la présence vivante, c'est un sacrement. Nous célébrons la messe sponsale. Et donc, il y a toute une liturgie, une prière, la présence du Christ, on se lève. Oui, on n'en retourne pas sur l'autel de la messe sponsale pour la transactuation surnaturelle sponsale du sacrement. On n'y retourne pas qu'après la transactuation surnaturelle du sacrement. On retrouve cette nudité qu'une fois qu'elle a disparu dans la transactuation surnaturelle du sacrement. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que si vous voulez faire une comparaison entre le canon de la messe eucharistique et le canon de la messe sponsale, eh bien, bien sûr, la nudité se retrouve à l'état intérieur et extérieur sans discontinuité entre les deux, après le canon, par lui, avec lui, en lui. Et après, il y a la communion. Et après, il y a l'action de grâce. N'est-ce pas? Et dans l'action de grâce, c'est la feuille de figuier donne tout son fruit et tout est déchiré puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et donc c'est des torrents qui sortent pour le monde entier. Pourquoi? Parce que le sacrement de mariage est fait pour réparer tout ce qui est malade dans le monde entier. C'est le sacrement de la guérison, oui. L'archange Raphaël, Dieu guérit. La guérison de la chair, la guérison du corps, la guérison de l'amour, la guérison de la lumière, la guérison de l'unité. La transfiguration. Vous voyez, le seul feu de figuier est très lié à la transfiguration. Et quand vous êtes sous le figuier, il y a vraiment une transfiguration. Vous communiquez, puis vous savez, vous êtes en... Le Messie est là-dedans, vous, et vous le voyez. Jésus dit, tu m'as vu sous le figuier. Votre traduisait, c'est moi que tu as vu sous le figuier. Alors du coup, Nathanaël se jette à ses pieds, parce qu'il avait dit avant, qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth. Du carrefour des peuples, Galilée. Et là, il se jette ses pieds, il dit, mon Seigneur, mon Dieu, tu es le fils du Dieu, tu te... Comme quoi, les Akma et Talmudi le savaient bien, que le Messie était Dieu, le fils du Dieu vivant. Parce que lui, il était Akma et Talmudi. Il enseignait la tradition de Moïse. Comme Simeon, tous les Juifs savaient ça. Parce que, pas de blague, hein, de temps en temps, pour établir un peu la vérité, c'est dans les textes de la synagogue ancienne, c'est dans les textes de l'évangile, et puis dans l'évidence. Et donc tous les Juifs savaient qu'il y avait la très sainte Trinité, que le Fils unique de Dieu, c'était les postales du Messie qui devait s'incarner et se donner en nom de Dieu. Et donc c'était sous mode de transfiguration et pas dans un corps spirituel de résurrection que la perfection de cette communion avec le Messie s'opérait. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, tu verras beaucoup plus. Ah, parce que je te dis, c'est moi que tu as vu, tu crois, mais tu verras beaucoup plus encore. Puisque tu verras le Fils de l'homme, avec les anges qui montent et qui descendent. Tu verras le Saint-Esprit, si tu veux. Et puis avec le miracle des trois éléments, tous les anges glorieux, dans la signification sponsale du corps glorieux du Messie. Pleine image ressemblance de l'amour masculin et féminin disparaissant dans l'unité de Dieu. Pour la procession du Saint-Esprit, dans l'époux, l'épouse, le Père et le Verbe, se manifeste dans toute la gloire de la Jérusalem céleste. Ça sera plus grand, ça. Et une songe qui monte et descend, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui descend du ciel. Mais ça, vous voyez, quand Jésus dit ça, c'est masculin, féminin. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui descend du ciel. C'est pour ça que les anges disent descendent. On pourrait dire à la réponse de Sadducéen, vous comprenez, il n'y a plus de masculin et de féminin, d'accord, mais il n'y a plus d'anges non plus. Les anges, ils prennent un mode de gloire humain dans le Christ, dans la gloire de la résurrection. On pourrait dire ça aussi. Il faudrait dire à saint Thomas d'Aquin qui a oublié ça. Dans la Somme. Et parce que lui, il répondait aux questions. À l'époque, au Moyen-Âge, on ne pensait pas à ça. Sponsalité. C'est quoi? Donc voilà. Donc, enfin, voilà. Vous comprenez que la nudité, c'est quelque chose de très beau. Et c'est pourquoi ça demande du temps. C'est le monde du temps. C'est ce que disait la petite fiancée du rabbi Anashi. Quand il disait, quand tu connaîtras parfaitement toute la Torah, nous pourrons nous marier. Je crois que ça a duré 10 ans ou 12 ans, je crois, son apprentissage de la Torah. C'est devenu un des plus grands princes d'Israël, c'est clair. Par amour pour son épouse, il a appris de manière contemplative, vivant, à l'ombre. C'est Yonatan ben Zakkaï, la Torah, l'impératif de l'amour de Dieu et du prochain en un seul acte, par amour pour sa fiancée. C'est extraordinaire ça. Le père, vous voyez, du Cantique des Cantiques, Rabbi Anashi. Le père, en ce sens que c'est lui qui l'a fait inscrire au canon des Écritures révélées, au concile de Yavna, au concile juif de Yavna. Vous rappelez de ça? Ah oui. Alors, la nudité, donc, est quelque chose de très fort, parce que elle va s'exprimer dans un rythme humain. qu'exprime la signification sponsale de la nudité du corps féminin. Et la signification sponsale de la nudité du corps masculin. Parce que le corps masculin, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas fait pour se précipiter. C'est quand j'étais étudiant. C'est pas fait pour se précipiter telle la bête. Mais non. Alors, je me rappelle quand on était étudiant, un camarade de Pio, il avait tout un programme. Ses stratégies en blanc. Première linéa. il était très séduisant. C'était très juste, il disait, en plus. Toute la signification sponsale du corps est au contraire faite pour attendre tranquillement que s'installe en lui sa masculinité d'unification, de commotion, d'intégration de toutes ces puissances masculines dans les énergies de la sève, de la virilité. Et pour ça, il faut du temps. Ça se fait pas comme ça en un quart d'heure. C'est pas vrai. À la passoire, ça, tu peux le faire en 5 minutes. Hein. Ça, c'est pas de problème. La serpillière. Bon. Mais je vois pas l'intérêt, franchement. En plus, c'est idiot. En plus, ça déchire, vous voyez. Ça fait une déchirure après pour une fermeture directeur quand ça déchire. D'accord. Après, c'est grain à grain qu'il faut là. Il faut la remonter la fermeture éclair. Plus facile à déchirer qu'à remonter. Hein. Mais une fois qu'elle est déchirée, bien, ça se remeut. Ça fait pas. Et vous savez, c'est ce que disent les médecins, c'est une jeune fille qui a perdu sa virginité, une femme qui a perdu sa virginité, si elle revit une nouvelle virginité, on rappelle le mystère de la transfiguration de Jésus, la nouvelle virginité de Marie, qui est révélée à travers la transfiguration de Jésus. Ben, si elle retrouve une nouvelle virginité, son hymen se reforme, même physiquement. C'est extraordinaire ça. Pas complètement, hein, d'accord. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais été voir. On m'a dit ça, je sais même pas ce que c'est que l'hymen, mais bon. Vous voyez ? Bon, c'est quand même beau ça de savoir ça. Il y a une nouvelle personnalité. Il faut du temps, le corps émet, un certain temps à se refaire spirituellement et physiquement dans la signification sponsale, dans la signification, dans la plénitude de capacité de son amour. Vous voyez ? Bon. Alors aujourd'hui, je voulais. Ça, c'est pour un petit tour d'horizon de ce qu'on avait déjà vu. Je pourrais bien sûr, pour aller un tout petit peu, pour enfoncer le clou, je pourrais prendre. On avait pris la dernière fois la prière eucharistique numéro 3 pour faire les parallèles. Bon, enfin, on pourrait prendre la prière eucharistique numéro 4, elle est plus longue, elle est plus sympathique. Si c'est plus long, du coup, si c'est plus lent, c'est plus tranquille. Hein. Faire ça avec ferveur et avec les mains. C'est-à-dire avec l'incarnation de l'amour intérieur. D'accord ? Bien. L'amour, c'est. Nous proclamons que tu es grand. C'est extraordinaire quand les deux disent ça d'une seule bouche intérieure. Oui. Tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image. Tu as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création tout entière. C'est l'unité sponsale qui règne. C'est pas l'homme ou la femme. C'est l'humanité intégrale. Donc c'est une prière sponsale. Afin qu'en te servant, toi son créateur, Il règne sur la création tout entière. Comme il avait perdu ton amour, ton amitié, en se détournant de toi, ce que nous ne faisons pas, puisque nous nous sommes revêtus du figuier, tu ne nous as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Et de ta miséricorde, tu veux venir en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent, puissent te trouver. Tu as multiplié l'alliance avec eux. Tu les as formés par les prophètes, par l'espérance du salut. C'est extraordinaire. Chaque parole a une consonance dans la vie, dans le vibratoire féminin surnaturalisé et le vibratoire masculin virilisé, n'est-ce pas ? Illuminé, transfiguré. Qui est très fort, c'est sûr. On est tout le canon. Mais vous voyez bien que. La conjonction à un moment se fait par aspiration instinctive et divine à l'épiclèse, puis on n'en parle plus. Mais on ne s'en rend même pas compte. C'est ça le centuple, vous voyez, la puissance centuplée de la différenciation sexuelle dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus que l'unité des deux. Ou alors Jésus a dû se tromper, quoi. Ah oui, ça y est. Mais exégèse historico-critique, il faut couper ce passage qui est incompréhensible. Qui est certainement un ajout postérieur. Hein? D'accord. J'ai compris qu'il y a un truc. Bon. Alors donc, ce que je voulais faire, ce que je regarder aujourd'hui, c'est que il y a, dans la nudité, il n'y a pas que les capacités réceptives, les capacités, les atouts, vous voyez, par exemple, dans le corps de la femme, tout est féminin, dans le corps de la femme. Dans le corps de l'homme, un peu moins. Mais tout pourrait extérieurement paraître féminin, c'est vrai. Et vous savez, les très très belles symboliques, bien sûr, hein, on l'avait vu par exemple avec la glaire, avec le sang, avec le rythme, avec les capacités d'accueil double, avec cette fécondité lunaire, tout ça. On avait vu ça avec toute cette intériorité de l'éros, avec aussi cette fécondité, le lait. Le lait, c'est comme ce petit cantique des cantiques, c'est comme des brebis, les brebis qui courent sur les collines de Galade. C'est l'intérieur, vous voyez, c'est pas de mensuration, c'est l'intérieur, c'est quelque chose de très très fort. Et le lait, ça représente la vie à l'état de fécondité pure. L'intériorité à l'état de fécondité pure. Pourquoi ? Parce que la femme est le lieu de la fécondité à l'état pur. La fécondité de l'amour, vous voyez ? C'est la femme qui féconde la signification sponsale du corps masculin. Elle féconde. Si elle n'est pas pure, elle féconde rien. Alors elle féconde quelque chose de désolant dans l'homme, de désolant. Et il y en a qui s'y habituent, hein. Ah oui, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est vrai, tant pis pour eux. Voilà, il n'y a pas que tout est féminin, tout est masculin. Le regard, la manière d'écouter, la manière de sentir la manière de nouer les harmonies du coin, la manière, c'est beau, c'est pour ça que quelque part je m'étais dit aujourd'hui peut-être que ce serait bien de regarder ça un tout petit peu dans le petit document de sponsalité 1992. On avait évoqué ce que dit saint Hildegarde, qui est une sainte, une femme. Et elle explique que toutes ces parties du corps, l'ouïe, le regard, le goût, la respiration, etc., tout le sens du toucher, tout ça, correspondent à des saisons et des mois et des rythmes de la terre, des rythmes de la vie végétative et animale aussi. Oui, ce sens extraordinaire, quand Dieu révèle d'aller plus loin. D'abord, un petit texte de Ruiz Brecht l'Admirable. Ruiz Brecht l'Admirable, c'est un Hollandais, c'est extraordinaire. Ruiz Brecht l'Admirable, il a parlé, écrit, contemplé, communiqué, etc. Sans arrêt, c'est la mystique hollandaise, vous savez, à l'époque de Saint-Ange de Foligno, Sainte-Catherine de Sienne, et Béguine et tout ça. Et il y a eu tout un courant mystique qui est apparu à cette époque-là. Comme je n'ai pas tellement envie de vous parler, mais simplement lui, vraiment, c'était le docteur de l'image ressortante de Dieu. Ça peut dire, c'est ça. Ruiz Brecht l'Admirable, c'est génial. Si vous voulez comprendre comment les missions invisibles du Saint-Esprit, les missions invisibles du Verbe de Dieu s'épanouissent dans l'incarnation de votre transfiguration en prière, c'est Ruiz Brecht l'Admirable. Or, il se trouve que justement, dans la nudité de la messe nonsale, il faut vivre de ça. C'est pour ça que c'est un passage, c'est pour vous donner envie de lire Ruiz Brecht l'Admirable. C'est désolant, j'ai jamais lu Ruiz Brecht l'Admirable. Ce serait désolant. Mais remarquez, c'est une désolation qui trouvera sa compensation au ciel. Pour que l'esprit contemple Dieu par Dieu, sans intermédiaire. En cette lumière divine de Dieu, il faut nécessairement trois choses. Oui, traduisez pour la messe pour ça. Hein. Donc, premièrement, hein, les parents sont partis, ils nous ont laissés dans le lit nuptial. Vite, d'abord, levons-nous, il faut trois choses. Il faut, premièrement, que l'homme soit bien réglé au dehors. En toutes les vertus, qualité, voyez, virginité, pureté, chasteté, humilité, tranquillité, patience, délicatesse. Un jour je ferai ça. Toutes les vertus nécessaires à l'homme, toutes les vertus nécessaires à la femme, toutes les vertus nécessaires à l'unité de l'homme et de la femme. Et tous les vices contraires qui viennent saccager ça. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors, il faut que l'homme soit bien réglé au dehors en toutes les vertus et sans obstacle dedans. Hein, feuille de figuier. Et vide de toute œuvre extérieure. Pas de marteau-piqueur. Comme s'il n'agissait pas. N'est-ce pas ? Bon. Car si son oisiveté est troublée au-dedans par quelque acte de vertu, il a des images. Et tant qu'elles durent en lui, il ne peut contempler. Tant que l'imaginaire domine, alors, la signification inversée de l'extériorité du corps excite l'imaginaire. Donc le monde psychique qui inverse la signification spirituelle et sexuelle du corps. Donc il faut qu'il ait les vertus pour qu'il soit dans un état de contemplation. Deuxièmement, il doit intérieurement adhérer à Dieu par la jonction de l'intention d'y adhérer et de l'amour de l'unité avec Dieu, comme un feu flamboyant qui ne peut jamais plus être éteint. Au moment où il se sent dans cet état, alors qu'il contemple. En troisièmement, oui, levons-nous ma soeur. En troisième lieu, il doit s'être perdu en une absence de mode et dans une ténèbre, oui, l'extase, le ravissement, la commotion, la tardéma, le sommeil de la masculinité, dans l'éblouissement, n'est-ce pas, où tous les contemplateurs, donc je m'excuse, en troisième lieu, il doit s'être perdu dans une absence de mode et en une ténèbre où tous les contemplateurs se sont égarés en jouissant et ne peuvent jamais plus se retrouver selon le mode des créatures dans l'abîme de cette ténèbre. dans ce sommeil, voyez, dans cet ardéma, où l'esprit aimant est mort à lui-même, commence la manifestation de Dieu et la vie de la grâce sanctifiante, la vie éternelle. Car en cette ténèbre naît et resplendit en une incompréhensible lumière qui est le Verbe de Dieu, en qui l'on voit la vie éternelle surgissant du milieu de nous. Et dans cette lumière, on devient voyant. Et cette lumière divine est donnée à la vision toute éveillée de l'esprit, incarné de l'homme, vous voyez, où l'esprit reçoit la clarté. Et cette clarté, en cette clarté, il communie à Dieu lui-même au-dessus de tous les dons et au-dessus de toutes les œuvres des créatures, dans le vide, dans la vacuité oisive de l'esprit. C'est Dieu qui s'écoute délicieusement en lui, qui envahit, qui le glorifie. L'homme, c'est vraiment le lieu de Dieu. Voilà ce que la femme est. Où en lui? Où il s'est égaré par l'amour tout jouissance de l'amour. Il jouit de Dieu. Et où il reçoit la clarté de Dieu directement, sans intermédiaire. Voilà ce que l'unité sponsale, ce qu'il assume la signification sponsale de la solitude de la femme dans, du dedans de la signification sponsale de la solitude, voilà ce qui se passe. L'unité apparaît. Et à ce moment-là, sans intermédiaire, Dieu est présent. L'amour de l'homme et de la femme est sacré. Par nature. Et par grâce, évidemment aussi. Et il devient sans interruption cette clarté même qui le reçoit. Vous voyez que c'est lié à la transfiguration, l'unité sensible. C'est pour ça que quand Saint-Luc explique que les bergers arrivent à Bethléem, il pense voir un enfant, puis en fait il voit quoi? Il voit l'unité sponsale de Tor Yosef, Ta Maria. Marie dans, en acte, Marie en plénitude, c'est-à-dire Joseph en plénitude, dans l'unité des deux. Puis au milieu de cette espèce de transfiguration mutuelle, dans ce nid, il y a Jésus qui est né. Noël s'est fait dans une transfiguration sponsale. C'était la naissance de Jésus, c'est réalisé comme ça. C'est Saint-Luc qui dit ça. Impressionnant. Alors, on continue. Voyez cette occulte clarté en laquelle on contemple tout ce qu'on désire. Après la passivité de l'esprit, cette clarté si grande que l'amant contemplateur, en son fond où il repose, ne voit et n'éprouve qu'une incompréhensible lumière, et selon la nudité simple qui enveloppe toute chose, il se voit et se sent, et se sent la même lumière par laquelle il le voit, et rien d'autre. Et voilà la première condition pour devenir voyant dans la lumière divine. Bienheureux les yeux qui voient ainsi, car ils possèdent la grâce et la vie éternelle. Puis pour ajouter, la capacité de réaliser l'unité dans la nudité, etc. Bruce Brett l'admirable. Continuez vos méditations, Bruce Brett l'admirable. Et je vais descendre d'un cran, c'est pas encore, parce qu'il faut quand même toujours pas être trop mystique, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est trop mystique, c'est trop fort pour moi, donc je n'écoute pas. Je préfère rester dans ma grotte avec des copains. Voir que oui, je change complètement de chapitre, mais je voulais annoncer, je suis passé exprès par le spectre admirable pour dire on redescend. Voyez, on passe du corps à l'image ressemblance de Dieu, lumière. On change pas de sujet, c'est évident, mais c'est pour voir le contraste en même temps avec saint type de garde, hein, le rythme, le temps, la gratuité, l'inutilité, la durée. L'abandon. l'homme. C'est un homme, là, cette fois-ci, qui parle. Alors, je vous le lis tranquillement. D'après la divine miséricorde du Seigneur, voici ce qui a été observé à l'égard des esprits angéliques qui nous sont envoyés. Raphaël, Michael, Gabriel, nos anges gardiens, ceux qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. Ceux qui apparaissent au-dessus et près de la tête sont ceux qui instruisent. Et aussi se laissent facilement instruire. Sous l'occiput apparaissent ceux qui agissent en secret avec prudence intérieure. Et près du dos, ceux qui agissent pareillement mais avec différence, avec distinction. Vers le thorax, la poitrine, ceux qui sont dans la charité, les séraphins. Vers les lombes, ceux qui sont dans l'amour conjugal. Vers les pieds, ceux qui sont simples et naturels. Et vers les plantes des pieds, les plus grossiers de ce genre. Les anges inférieurs. Les anges inférieurs sont plus qu'un homme. Hein. Spirituellement, un ange inférieur, c'est plus qu'un homme. Il faut commencer avec la plante des pieds. Il faut commencer avec la ferveur. Si tu ne commences pas avec la ferveur, tu ne montes pas. Hein. Tu ne peux pas monter hein, si tu ne commences pas par la ferveur. Quant à ceux qui apparaissent vers le visage, ils sont de différentes natures selon les sens externes. Les sensibles animent le corps. Par exemple, vers les narines apparaissent ceux qui brillent par la perception, vers les oreilles, ceux qui obéissent, vers les yeux, ceux qui sont intelligents et sages. Et ainsi de suite pour tout le reste. Les sens externes sont au nombre de 5, à savoir le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Ils ont chacun une correspondance avec les sens internes. C'est beau ça, de savoir ça. Qu'il y a 5 manières dans la grâce de se dépasser dans la virilité, dans l'unité des deux, dans la lumière du corps, pour voir, pour entendre, pour sentir, pour avoir le goût de l'autre, pour avoir le goût de l'autre, de Dieu, dans l'unité des deux. Mais aujourd'hui, ces correspondances sont à peine connues. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a ces correspondances. Vous voyez ? Et cette remarque très juste. Pourquoi ? Parce que, à cause de Descartes, n'est-ce pas ? À cause de beaucoup d'idéologies, on a, à part de Platon aussi, hein, si on remonte beaucoup, beaucoup plus tôt, on a séparé le corps et l'âme. Alors que les deux ne sont qu'un. Alors, du coup, on ne voit plus les correspondances. On a séparé Dieu et l'homme. On a séparé l'esprit pur de l'homme, du monde angélique, et l'esprit incarné de l'homme. On a séparé l'homme et la femme. On a séparé le ciel et la terre. On a fait des couples. On a fait des yin et des yang. On a fait de l'antéchrist. On a fait le mâle et la femelle. On a fait les péter. Etc. Mais aujourd'hui, ces correspondances sont à peine connues des gens parce qu'on ne sait pas qu'il y a ces correspondances. Il n'y a plus forte raison qu'il y a correspondance entre les spirituels et les naturels. Le naturel veut dire par là ceux qui sont dans la nature corporelle, ou en d'autres termes, correspondance des choses qui appartiennent à l'homme interne avec celles qui appartiennent à l'homme externe. Il n'y a pas de différence. Et je n'accède à l'unité de l'interne, de l'intérieur et de l'extérieur qu'en donnant le privilège à l'intérieur. N'essayez pas d'allumer l'ampoule, le filament de l'ampoule par l'extérieur. Non, il faut un fil qui rentre à l'intérieur et qui donne l'énergie au filament pour éclairer intérieur et extérieur. Donc privilégier l'intérieur. Qu'il n'y ait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Dans la pureté, évidemment, diaphane du corps. Alors, on continue. Quant à ce qui concerne les correspondances de la sensibilité, le sens du toucher en général correspond à l'amour de ce qui est bon, de ce qui est bien. Le sens du goût à l'amour de la connaissance, du savoir, de la doctrine. Le sens de l'odorat à l'amour de la perception des choses de Dieu. Le sens de l'ouïe à l'amour de l'expérience, de l'apprentissage, de la croissance, et surtout au terme à l'obéissance. C'est très juste ça. Parce que si vous êtes l'ouïe, vous comprenez, vous met en présence d'un autre, alors c'est l'autre. Vous obéissez. C'est le au-devant, cette présence. Et le sens de la vue à l'amour de comprendre et de la saveur de la sagesse. Si le sens de la vue correspond à l'amour de comprendre et de cette croissance dans la sagesse, c'est parce que la vue du corps correspond entièrement à la vue spirituelle. Et aussi à la compréhension intérieure des choses. En effet, il y a deux lumières, l'une qui appartient au monde qui vient du soleil, et l'autre qui appartient au ciel et qui vient du Seigneur. Dans la lumière du monde, il n'y a rien de l'intelligence de Dieu. Mais dans la lumière du ciel, il y a l'intelligence. De là, autant chez l'homme, les choses qui appartiennent à la lumière du monde sont éclairées par celles qui appartiennent à la lumière du ciel, autant l'homme comprend et devient lumière. Il devient sage. Ainsi, et ainsi de suite, tant que ces choses correspondent entre elles, il y a une unité qui se fait opposer. Dans l'amour de l'homme et de la femme, une unité se fait. Comme la vue de l'œil correspond à l'entendement, commencer à entendre les choses, à les découvrir, à les assimiler. C'est pour cela aussi qu'à l'entendement est attribuée une vision, une vue, et qu'elle est appelée vision intellectuelle. Vous voyez, vous comprenez. Je comprends maintenant. Les choses dont l'homme a la perception, qu'il n'arrive pas à comprendre, sont aussi appelées objets de cette vue. Et même dans le langage ordinaire, les choses qu'on comprend, on dit qu'on les voit, lumière et illumination, et par suite clarté, et de l'autre côté, ombre et ténèbres, et par suite obscurité, se disent aussi de la manière de comprendre les choses. Se disent aussi, autant pour les choses de l'œil, obscurité et lumière, que pour les choses de la compréhension profonde de l'autre. Ces expressions et d'autres semblables sont venues en usage dans le langage chez l'homme parce qu'elles correspondent exactement entre elles, sans intermédiaire, selon la vue de Dieu, car l'esprit de l'homme est dans la lumière du ciel et son corps est dans la lumière du monde. Et c'est l'esprit qui vit dans le corps et aussi qui pense. De là, plusieurs choses qui sont intérieures sont ainsi tombés dans la manière même de les exprimer par les mots. L'œil est l'organe le plus noble du visage et il communique avec la compréhension d'une manière plus immédiate que les autres organes sensoriels de l'homme. Il est même modifié par une atmosphère plus subtile que celle de l'oreille. C'est pour cela même que la vue pénètre profondément et de manière plus subtile dans les réalités humaines, qui quand tu t'implies dans la main de Dieu et dans la subtilité de l'intériorité divine. C'est bon ça. Je dis ça juste à titre d'exemple. Moi, personnellement, ça m'a intéressé. Pourquoi ? Parce que je regarde la différence entre la manière dont Dieu fait exprimer une femme, Saint Hildegarde, sur les correspondances des sens externes avec les choses du temps, de la, des saisons, des rythmes, et la manière dont le sage ordonne les mêmes correspondances sur des choses de manière assez différente. On sent que c'est la force de Dieu, la lumière, qui domine selon ces cinq modes différents dans l'homme, et qui effectivement transpose l'extériorité de son corps dans l'intériorité et lui donne sa virilité, laquelle disparaît dans la lumière de Dieu, qui elle-même l'établit fermement dans l'unité spontanée, dans le dépassement de la nudité. Voyez ? Alors un don est fait à l'homme et à la femme, et ce don, c'est le don de l'unité sans mélange entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme et de la femme. Et vous avez donc l'explication pourquoi dans le livre de la Genèse, le pape Carole a bien indiqué que d'abord on fait l'expérience de la solitude, la plénitude du cœur. Puis de l'unité, puis après de la nudité qui elle-même se dépasse dans le temps. Et c'est ce don, à la fois dans une espèce de conjonction du temps et de l'éternité d'une part, de l'extérieur et de l'intérieur, pour le masculin, et cette conjonction des deux fait s'aider au-delà de l'espace et du temps, dans l'unité spontanée. C'est pour ça qu'on s'en rend même pas compte qu'il y a eu une compénétration à un moment donné. Vous voyez, bon, fin d'explication pour la nuit. Je voulais terminer juste en disant quelques petites notes, comme ça, petites flashs, quelques petits points. Si nous voulons être illuminés de l'intérieur pour comprendre dans notre entendement, pour vivre au rythme de notre sexualité retrouvée dans la lumière, c'est sûr que il convient de se situer sur une ligne de crête. Sur une ligne de crête, il ne faut dévisser ni à droite ni à gauche. À gauche, vous avez l'innocence originelle perdue, de la signification spontanée du corps, et à droite, j'ai la vie de la grâce originelle à gauche et la vie de la grâce sanctifiante rédemptrice à droite. Et dans l'unité spontanée, dans le corps, je suis sur une ligne de crête. Il faut que j'appuie autant qu'il est possible dans la signification spontanée de mon innocence originelle. Et donc dans l'aspect transfiguration de mon corps, lorsqu'il vit pleinement, mystiquement, en présence de ma moitié spontanée ou en dehors de sa présence, c'est pas grave. Je vis au plus de la liberté de l'innocence originelle de mon corps. Dans la mesure où j'arrive à faire en sorte que la blessure ne vienne pas la perturber par l'imaginaire ou par la libido, n'est-ce pas ? Et dès qu'il y a l'imaginaire et la libido, hop, je prends. Pour sacraliser mon imaginaire et bétonner ma libido, je prends Jésus, je prends la grâce sanctifiante, je prends le sacrement. Et c'est ce que dit le pape Carole, il dit voilà, ceux qui ont vocation à l'amour doivent se situer sur un seuil. Une de crête entre l'innocence originelle et la rédemption du Seigneur. Donc, il faut vivre des deux. Et on bétonne. Et pour pouvoir vivre de ce, cette rédemption, cette guérison chrétienne, la vie divine de la grâce, qui s'incarne et rayonne et transforme notre corps, mais dans une virginité, une virilité et une splendeur, une puissance dans laquelle il y a le don de la féminité et de la masculinité. Sans pareil, alors à ce moment-là, il faut bien sûr que je contemple, que je regarde, que je médite, que je saisisse, que je vive, que je revive avec Jésus ce qu'il a vécu dans la plénitude de sa grâce capitale comme fils de l'homme, et puis comme mari, comme immaculé, comme femme accomplie. Vous voyez ? Et donc je vais... C'est pour ça qu'ici, je voulais vous donner quelques petites lignes et vous rappeler une chose, certaines choses, c'est que je proposerai assez volontiers, pour ceux qui ont vocation à l'amour, c'est-à-dire pour tout le monde. Bon, parce que si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas vocation à l'amour, qui vient nous trouver et qui nous écrive. Bon, en tout cas, il n'y a pas de place parmi nous. Bon. Je crois que c'est bien de regarder, c'est bon, c'est utile, c'est même peut-être indispensable, je ne sais pas. De demander au Saint-Esprit, qui est l'unité de l'épouse et de l'époux, enfin du Père et du Verbe, de nous faire revivre dans notre chair par union. Communion de sainteté du corps mystique de Jésus, tout ce que Jésus et Marie ont vécu, vous voyez. Et donc, je propose, et nous verrons la prochaine fois aussi, la question des blessures, des échecs, des trahisons, des adultères, des divorces, des impossibilités, des blocages, etc. Et tout le problème qui se pose dans l'ordinaire de la vie humaine et de la vie chrétienne même aussi. Comment donc on va gérer ça, hein? C'est pas notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, je propose au contraire qu'on aille regarder ce qui vient guérir toutes ces blessures. Par prévenance, par miséricorde prévenante, avant qu'elles n'arrivent. Évidemment, on peut foncer dans le mur. Hein. C'est facile, hein. Tu prends ta bagnole, tu fais 200 à l'heure, tu fonces dans le mur, t'es mort, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas compliqué, ça. Tout le monde sait faire ça. Hein. Surtout si t'as pris un peu de cocaïne, hein. Tu fais comme Freud, tu prends de la cocaïne, et puis t'as le courage de faire des bêtises. De dire des bêtises aussi. Bon, peu importe. Bon, alors, je conseille, je propose, puisque ça existe, d'aller regarder en particulier la flagellation. Si vous ne savez pas trop où nourrir votre contemplation intérieure de la flagellation de Jésus pour la revivre de l'intérieur de vous, hein, quand Jésus est flagellé. Pas à la regarder sur Mel Gibson, vous voyez, de l'extérieur, mais regarder la flagellation comme Marie l'a fait, en la vivant de l'intérieur, de sa propre chair intérieure, en se laissant macharer cruellement par cette flagellation. Donc c'est l'unité sponsale de Jésus et Marie qui vivent la flagellation. Sinon la flagellation n'a aucune signification, si ce n'est pas dans l'unité des deux qu'elle s'est réalisée. Il faut vivre. Il faut contempler, il faut regarder en face ce qui s'est passé. La réalité sponsale de Jésus-Marie à la flagellation. Si vous ne savez pas où trouver un test, je crois qu'il y a quelqu'un ici très sympathique, là, Novanova, qui a un groupe qui ont médité là-dessus. Vous trouvez ça sur le site catholique du Point Net, rubrique Mystère du Rosaire. Flagellation. Après ça, c'est intéressant. C'est très beau. Très beau. Oui, vous pouvez regarder Mel Gibson, la flagellation, mais après avoir vu ça, pour voir l'amour intérieur qu'il y a de Marie dans la flagellation de Jésus. la présence physique, je dis bien physique, de Marie dans la flagellation de Jésus. Sans laquelle présence il eût été strictement impossible, Jésus, de se relever trois fois. Il était régénéré par son indispensable Marie dans cette flagellation. La flagellation est une réparation et un recentrage, un redirectionnement de la signification spontanée normale de l'homme et de la femme par l'unité des deux. Il faut, je propose aussi de regarder les noces de Cana, justement, deuxième mystère lumineux. Ça, c'est sûr, les noces de Cana. C'est très beau de regarder les noces de Cana. Il faut regarder aussi la transfiguration. Regardez la transfiguration. Parce que la transfiguration, c'est un mystère sponsal par excellence. C'est inexplicable la transfiguration. Si c'est pas un mystère de Marie. Hein. La transfiguration de Jésus sur le Tabor. Hein. C'est un mystère de Marie. Tu vois Jésus? C'est un mystère de Marie. Il faut regarder ça. Il faut le saisir, l'entendre. Comme nous disait le sage tout à l'heure, l'entendre, en jouir, le savourer, le comprendre. Ah, mais oui, bien sûr. Et à force de contempler, les choses se remettent en place. Voyez. Il y a aussi la nativité. Parce qu'entre Marie et Joseph, il s'est passé quelque chose. Dans la Sainte Famille, cinquième mystère joyeux, il s'est passé quelque chose dans le dispensaire. Dans la résurrection de Jésus. C'est un mystère de Marie, la résurrection de Jésus. C'est un mystère du rosaire. C'est un mystère de Marie. C'est l'Église, on a fait un mystère du rosaire. C'est un mystère de Marie. C'est Marie qui est, c'est la femme qui est la source de la pureté, de l'unité des deux. C'est pour ça que Jésus s'est toujours mis en dessous de Marie, en dessous de sa foi. Se laisser féconder dans quelque chose qui me dépasse, dans l'humanité intégrale, la splendeur de la femme magnifie la vérité de l'homme dans l'au-delà de l'unité des deux.